Bonjour à tous.
Il est 5h.
Je me suis promené récemment en ville et j'ai vu des touristes pour la première fois depuis un an et demi. Et j'étais heureux.
L'Italie et précisément Rome à quelques heures de célébrer le football et la promesse de l'après-pandémie. Match d'ouverture de l'Euro ce soir à 21h. Était-ce prémédité le meurtre de Julie Dwib par son ex-conjoint en 2019 en Corse ? L'accusé prétend avoir simplement voulu l'impressionner avec son arme, mais il a bien tiré trois fois. Et puis attention aux fausses bonnes idées en matière d'écologie. Planter des forêts là où il n'y en a jamais eu par exemple, c'est peut-être bon pour le climat, mais pas pour la biodiversité.
À suivre, votre journal des sports et notre revue de presse du matin. Et puis on sera à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, pour les doigts dans l'assiette, avec notre éleveur porcin Alex Thora. Très bon réveil, merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Finalement, qu'est-ce qu'une pandémie d'un an et demi à l'échelle de la ville éternelle ? Rome accueille ce soir le tout premier match de l'Euro de football Turquie-Italie qui aurait dû avoir lieu en 2020 et qui se tient enfin dans une capitale où l'on retrouve aussi un quotidien normal. Simon Rubin est l'envoyé spécial d'Europe 1.
À Rome, tout est prêt pour la grande fête. Les écrans fleurissent sur les terrasses en prévision du match. Aux abords du stade, on a disposé les bornes qui prendront la température des spectateurs et les vendeurs ambulants proposent toutes sortes d'accessoires siglés, plus ou moins légalement, Euro 2020. Après un an et demi de Covid, c'est un peu comme si Rome se réveillait d'une longue nuit. Manuel Di Leonardo est gérant d'un hôtel qui vient tout juste d'ouvrir et il savoure.
This is a new beginning for Rome.
C'est un nouveau départ pour Rome. Ça a été une période très très difficile pour beaucoup de monde. Je me suis promené récemment en ville et j'ai vu des touristes pour la première fois depuis un an et demi et j'étais heureux.
Et en centre-ville, une fan zone avec écran géant va ouvrir ses portes d'ici quelques heures sous la supervision de Sylvia Badiali.
Évidemment, la place aura un accès limité à cause de la restriction liée au Covid. Chacun peut donc réserver sa place via une application. En tout, nous aurons 2000 personnes.
Pour l'Italie meurtrie par le Covid, donner le coup d'envoi de l'euro à quelque chose de symbolique. C'est le début d'un été différent, espère-t-on ici, le début d'une résilience collective. Rome, Simon Rubin, Europe 1.
Et ce début de l'euro, on y revient évidemment dans le journal des sports dans quelques minutes. Et puis ne manquez pas l'interview d'Alain Giresse avec nous à 6h40 pour évoquer le statut de favori, notamment des Bleus. Le tournoi démarre donc ce soir. Dans l'actualité de ce vendredi également, François Geffrier, le sommet du G7 qui s'est ouvert au Royaume-Uni. Il se tient jusqu'à dimanche en Cornouailles.
On va beaucoup y discuter des vaccins contre le Covid. Joe Biden arrive avec la promesse de mettre 500 millions de doses sur la table pour les pays pauvres. Le président américain qui avait, il y a quelques semaines, créé la surprise en demandant la levée des brevets, la propriété intellectuelle sur ces vaccins. Mais de son côté, l'Élysée cherche à rappeler que l'Europe était en pointe sur ces deux aspects bien avant les États-Unis. Jérémy Bodo.
Oui, car Emmanuel Macron, hier soir, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, a émis quelques doutes sur les promesses des États-Unis.
J'attends d'avoir la proposition précise américaine. Elle n'est pas mieux-disante, elle est moins précise.
Le président français ne croit pas que Washington imposera une levée définitive des brevets sur les vaccins Covid, alors même que les États-Unis ont attendu d'avoir vacciné une grande partie de leur population avant de partager leur dose. Autre point important sur lequel la France attend des réponses au G7, les blocages américains sur l'exportation des composants nécessaires à la fabrication de vaccins.
Mais j'espère que ce sera une avancée du G7, parce que là c'est un blocage américain. Ce qui, pendant des mois, a empêché le Serum Institute of India de produire pour lui-même et pour l'Afrique, ce sont les restrictions à l'export mises par plusieurs économies, dont l'économie américaine.
Emmanuel Macron l'a dit plusieurs fois, il se réjouit que les États-Unis reviennent dans les instances multilatérales comme le G7 avec l'envie de discuter. Mais pour être certain que Joe Biden prend bien le contre-pied de Donald Trump, la France demande des clarifications sur ses promesses.
Les Américains, dans les prochaines heures, vont arriver avec une proposition écrite et on va regarder ce qu'il y a de plus efficace et de plus ambitieux.
Comme souvent dans ces sommets internationaux, les discussions vont être longues et vives pour arriver à un accord signé par tous les participants.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Par ailleurs, deux cas de Covid sont signalés à bord d'un des tout premiers bateaux de croisière à voguer de nouveau en Amérique du Nord, le Celebrity Millennium, et ce alors que l'équipage et les passagers sont vaccinés selon l'armateur. L'actualité judiciaire avec ce procès aux assises à Bastia, Bruno Garcia Cruciani, jugé depuis hier pour l'assassinat de son ex-compagnon Julie Dwib, en mars 2019. La mère de famille de 32 ans avait alerté la gendarmerie sur la dangerosité de l'accusé. Elle avait déposé plainte contre lui pour menaces de mort et violence en vain.
Et l'ex-conjoint encourt la prison à perpétuité. La question qui est déjà au cœur des débats, c'est celle de la préméditation, Marion Dubreuil.
Oui, Bruno Garcia Crucciani maintient sa position. Il n'avait pas l'intention de tuer Julie Douib ce dimanche 3 mars quand il arrive chez elle avec une arme. Vous dites que vous vouliez juste l'impressionner, l'interroge la présidente. Oui, c'est ça, madame, répond l'accusé au crâne rasé et au regard fermé. Un premier tir de panique et puis un trou noir. Sauf que cette version ne tient pas pour les enquêteurs. 3 gendarmes ont défilé à la barre pour énumérer les éléments qui vont dans le sens de la préméditation. Quelques jours avant les faits, Bruno Garcia Crucciani a fait des recherches sur Internet avec les mots-clés « peine encourue pour homicide ». La veille, il a traqué Julie alors qu'elle était au cinéma avec son nouveau compagnon. Elle était terrorisée. Il a confié à son beau-frère qu'il était écœuré de voir qu'elle refaisait sa vie. « Elle m'a menti. Moi, on ne me prend pas pour un con. » Il a exhibé son arme, a tiré en l'air dans son jardin. Son beau-frère a tenté en vain de le dissuader. « Sois pas con. Pense à tes enfants. »
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe.
À 5h06. Sur Europe 1, l'environnement à la une sous deux aspects qu'il ne faudrait pas opposer, le climat et la biodiversité.
Oui, à quelques mois de deux nouvelles COP, ces grandes conférences internationales, 50 des plus éminents experts de l'ONU établissent un lien clair entre réchauffement climatique et perte de biodiversité. Virginie Salmen, il publie un rapport avec des solutions.
Oui, des solutions à notre portée, par exemple créer un réseau national de ramassage de compost, comme on ramasse les poubelles, pour ensuite épandre ces épluchures de fruits et légumes, ces restes de cuisine, dans les champs. Ça permettrait à la fois de stocker plus de carbone dans le sol et de recréer de la biodiversité. En revanche, il faut arrêter cette mode de planter des millions d'arbres dans des endroits où il n'y a jamais eu de forêt, explique le docteur Paul Lidley de l'Université Paris-Saclay, l'un des auteurs du rapport.
Une fausse bonne idée, c'est de planter des arbres, mais de planter des arbres dans des endroits où il n'y avait pas d'arbres récemment. Donc, par exemple, au milieu des savanes, qui est parmi des choses qui sont proposées, il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle où il y a effectivement ce type de plantation. Et surtout, si c'est fait avec des espèces exotiques, c'est vraiment une fausse bonne idée.
Autre tendance à bannir, selon les experts de l'ONU, cultiver des biocarburants sur des hectares et des hectares, ça appauvrit les sols et, selon eux, on n'a plus de place pour ça sur Terre.
Virginie Salmen, spécialiste environnement d'Europe 1.
Et puis les néons rouges, les fameux néons rouges de la devanture de l'Olympia ont à nouveau retrouvé la lumière hier.
Oui, la prestigieuse salle de spectacle parisienne rouvrait ses portes avec les Un Rock Festival. En jauge réduite, oui, mais pas pour autant sans ambiance, comme a pu le constater Angèle Châtelier pour Europe 1.
C'est incroyable, c'est de se retrouver dans une salle de concert, ça faisait longtemps quoi.
Impossible de rester assis comme c'est censé être la règle face à la passion d'un concert. Les masques ne tombaient pas, mais tous les spectateurs étaient debout. L'Olympia a retrouvé sa fosse et sa fougue, même s'il y avait 3 fois moins de spectateurs que d'habitude. Carole Boinet, rédactrice en chef des Un Rock qui organisait l'événement, ne contenait pas son enthousiasme.
Tout le monde est dans une espèce de ferveur incroyable, ça colle des frissons.
Ce sentiment de liberté est aussi permis parce que les 1200 spectateurs ont dû montrer un test négatif ou un certificat de vaccination. À l'entrée, une dizaine de vigiles avaient pour mission de vérifier leur validité.
Et ensuite, vous allez en bas à gauche.
Le groupe La Femme, tête d'affiche de la soirée, en plaisantait même pendant le concert.
En temps de Covid, il faut faire très attention. Donc c'est super qu'on ait au moins un public.
À la sortie, face au néon rouge scintillant, enfin rallumé sur la devanture de l'Olympia, quelques spectateurs transpirant s'attardaient.
On dansait de ouf, c'est très très chaud là.
Comme le vélo, semble-t-il, danser face à un groupe, être ébloui par des spots de lumière scintillant, eh bien ça ne s'oublie pas.
C'est de ouf, dit ce monsieur, interrogé par Angèle Châtelier.
Merci, c'était le journal de ouf de François Geffrier. Il est 5h09. L'heure de retrouver Lénaïque Monnier pour le journal des sports. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Et à la une, ça y est, l'Euro de foot démarre ce soir.
Enfin, c'est la une du journal L'Équipe ce matin. Place à l'Euro 2020 qui débute un an plus tard. Autant dire qu'effectivement, il y a de l'impatience dans l'air. En match d'ouverture, Italie-Turquie, des Italiens absents de la dernière Coupe du Monde et qui rêvent de retrouver la victoire. C'est un match à suivre en direct sur Europe 1, diffuseur officiel de ce championnat d'Europe.
Un match qui sera sans doute scruté par l'équipe de France ce soir à Clairefontaine.
Oui, les Bleus ne décollent que lundi pour Munich à la veille de leur premier match face à l'Allemagne. Hier, l'équipe de France a reçu la visite d'Emmanuel Macron, c'est une tradition. Son message, bien s'entendre, a confié Paul Pogba.
Le message qu'il nous a dit, vraiment, voilà, c'est le groupe qui fait la force, d'être vraiment, voilà, une fierté d'être là tous ensemble, de rien lâcher. il a dit. Il a appuyé sur ce mot de rien lâcher. Vraiment rester dans la même mentalité qu'on a toujours eu depuis la Coupe du Monde. Tout va bien se passer.
On espère en tout cas. Paul Pogba avec Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
C'est le président qui l'a demandé. Le tennis, Lénaïck Monnier, cette demi-finale très attendue entre Djokovic et Nadal à Roland-Garros.
Oui, c'est le duel que tout le monde attend depuis que le tirage au sort les a placés tous les deux dans la même moitié de tableau. Et pour l'ancien joueur Arnaud Di Pasquale, il y a un favori.
Je dis Nadal en 4-7 parce que je pense qu'il se sent plus fort que Djokovic ici. Forcément, parce qu'il y a tellement de victoires, parce qu'il l'a battu aussi récemment et que ça lui a donné aussi, je pense, cette petite confiance supplémentaire. Et après 4-7, parce que serré hein, quand même, parce que de toute façon, Djoko a aussi les armes pour le contrer, même sur Terre, et c'est le seul probablement d'ailleurs. Mais je pense que même psychologiquement, pour Djoko, c'est quand même dur. Djoko qui va y croire avant, au début, au premier, au deuxième peut-être, et puis doucement, ça peut s'étioler un peu, redescendre. Il y a finalement ce sentiment d'impuissance qui, à un moment donné, arrive.
Arnaud Di Pasquale et son pronostic très précis. L'autre demi se joue entre Tsitsipas et Zverev. Et puis on notera aussi la qualification du duo Mahut-Herbert pour la finale du double et celle de 4 bébés mousquetaires, 4 jeunes français dans le dernier carré du tournoi junior.
Espérons que c'est la relève qui arrive. Enfin, Lénaïck Monnier, le compteur français reste bloqué aux mondiaux de judo.
Oui, il y a eu l'or de Clarisse Agbenienou hier. Mais aujourd'hui, on a peut-être une nouvelle chance sérieuse de médaille avec Madeleine Malonga. Elle est championne du monde sortante chez les moins de 78 kilos. Et elle aussi, elle veut faire coup double mondiaux plus Jeux Olympiques.
C'est un titre en plus. C'est des filles, l'occasion de prendre des filles fortes aussi avant les Jeux. C'est aussi un petit repérage. Bon, il y a vraiment l'envie de gagner, c'est vrai. Mais que ça ne soit pas l'objectif comme chaque saison, c'est. Ce n'est pas la phase terminale. Là, c'est j'y vais, mais il y a encore autre chose au-dessus. Donc, c'est une approche un peu particulière.
Madeleine Malonga, interrogée par Axel Mech.
Merci Lénaïck pour ce journal des sports. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Place aux courses, avec vous Thierry Léger, bonjour.
Bonjour Théo, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne et mon pari gagnant sera le 306 Taybury. Cette pouliche bien née vient d'effectuer deux bonnes courses de début, le 18 avril à Longchamp où elle se classait 3e, puis le 17 mai à Chantilly en concluant 2e derrière Lady Laura, une pouliche entraînée en Allemagne qui depuis s'est distinguée au niveau classique. La ligne est donc bonne et cet après-midi, au vu de l'opposition qui lui est proposée, notre cliente du jour ne devrait avoir aucune difficulté à remporter sa première victoire. Notez bien, pour Compiègne, réunion 1, dans la 3e course, le numéro 6, Taybury.
Votre pari gagnant, merci Thierry Léger. On vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
5h13, l'heure d'ouvrir dans un instant notre pressing, les histoires repérées pour vous dans la presse. Omblin Roche, qu'est-ce qui vous a marqué ce matin?
La saison 2 de la série française Lupin avec Omar Sy arrive sur Netflix depuis la diffusion du premier volet. Le gentleman cambrioleur n'arrête pas de voir sa popularité augmenter. À Étretat, la maison de son auteur Maurice Leblanc ne désemplit pas. Et elle est toute petite.
À tout de suite.
Europe 1. Théo Manval.
L'essentiel à 5h15, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron mardi a passé sa première nuit en prison. Damien Tarel condamné à 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt hier en comparution immédiate. 1 milliard de doses de vaccins promises à 92 pays pauvres, annonce des dirigeants du G7 qui se réunissent en sommet d'aujourd'hui à dimanche au Royaume-Uni. Il s'agira de partager certaines doses et d'en financer d'autres, des nouvelles. En Algérie, plusieurs arrestations hier à 48 heures d'élections législatives boudées par une grande partie de l'opposition. Karim Tabou, figure du mouvement de contestation du Hirak ainsi que le directeur d'une station de radio, ont notamment été interpellés. Et puis en tennis, les demi-finales messieurs de Roland-Garros cet après-midi. L'Allemand Zverev face au grec Tsitsipas à 14h50. Et puis la grande affiche Djokovic-Nadal, elle est prévue à 17h30.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. Et on commence comme chaque matin par la une de vos journaux. Que la fête commence, scande aujourd'hui en France. C'est l'Euromission pour le gratuit 20 minutes, un euro-événement pour le journal du Centre. Voilà, vous l'aurez deviné, le début de l'Euro de foot, évidemment en première page d'une très grande partie de la presse ce matin. Enfin, titre l'équipe qui rappelle qu'on joue ce tournoi 2020 hein, avec un an de retard, la faute à la pandémie. Même Le Figaro affiche à sa une le visage souriant de Didier Deschamps, le sélectionneur. mais consacre son premier titre au G7 qui débute aujourd'hui au Royaume-Uni et où Biden, dit le Figaro, veut enrôler l'Europe contre la Chine. Joe Biden à la reconquête de l'Ouest, c'est aussi la une de Libération qui fait le même constat. La tournée européenne du président américain vise à consolider les liens avec ses alliés historiques face aux menaces russes et chinoises. Une volte-face, dit le journal, après les 4 années de présidence Trump. Le Télégramme en Bretagne revient, lui, sur la fin de l'opération Barkhane au Mali, annoncée hier soir par Emmanuel Macron. Quand le Dauphiné libéré titre sur cette peine de prison 4 mois ferme pour l'homme qui a giflé avant-hier le président de la République, il s'est réclamé, cet homme, de l'extrême droite. Le journal L'Humanité relaie justement l'appel à manifester lancé par 120 associations demain partout en France pour sonner le réveil, dit l'UMA, face à la menace. Et puis, il n'y a pas que l'Euro au programme des sports ce matin. 24 heures du Mans, les retrouvailles affichent à sa une le Maine Libre, qui se réjouit d'une jauge estimée à 50 000 spectateurs et 50 000 pour l'épreuve d'endurance au mois d'août, alors que l'épreuve moto débute ce week-end, elle se dispute à huis clos. Les trois histoires qui attirent notre attention ce matin. Amblin Roche, on commence avec vous.
Et direction la Seine-Maritime, aujourd'hui en France, nous emmène à Étretat, le fief de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Alors chez les fans du personnage, il existe plusieurs écoles. La série des années 70 diffusée sur Antenne 2 avec Georges Descrières, inspirée des romans. Le manga Lupin 3 sur le petit-fils du héros. Ou bien sûr, Lupin avec Omar Sy.
D'après la police, il s'agirait Hassan Diop. L'homme le plus recherché de France.
Voilà, Sam Diop ou Lupin. Lupin, la saison 2 est lancée aujourd'hui sur Netflix. Autant vous dire que la maison à colombage de Maurice Leblanc, baptisée Clos Lupin, ne va pas se désemplir. Pendant le week-end de la Pentecôte, elle a failli battre son record de fréquentation et pourtant, on était en jauge limitée. Il faut dire l'engouement. Les visiteurs pouvaient attendre pendant 2 heures dans le parc autour de la maison pour avoir la chance de visiter notamment le bureau de l'écrivain dans lequel on ne tient qu'à 4.
Oui,
pas plus.
Effectivement.
En France, les fans viennent de partout. Certains se sont mis à lire les romans après avoir vu la série. Tout l'univers d'Arsène Lupin fait vendre désormais des tasses, des stylos, des carnets. Un artiste local raconte qu'avant, il vendait quelques affiches par mois du Gentleman Cambrioleur. Aujourd'hui, ce sont quelques affiches par jour.
Merci Netflix.
Exactement, Lupin, un voleur qui enrichit tout le village. Il détrône les plages de Galets, les falaises, le terrain de golf. Alors cependant, cette popularité soudaine n'est pas vue d'un très bon œil par certains locaux. Étretat enclavé entre deux falaises souffre déjà d'une fréquentation importante, l'été notamment. Et l'association de défense du site demande un plan de mesures pour limiter le surtourisme. Alors tous ne sont pas de cet avis, d'autres habitants sont ravis. Ils ont même pu jouer des figurants lors du tournage de Lupin. Voilà, la saison 2 est diffusée dès aujourd'hui sur Netflix et c'est aujourd'hui en France qui en parle ce matin.
Merci beaucoup Amblin Roche. Il y a 4 ans, jour pour jour, avait lieu le premier tour des élections législatives qui ont vu près de 170 députés novices étiquetés La République En Marche arrivait à l'Assemblée. Le journal La Croix est allé recueillir leurs confidences, leurs ressentis, leur bilan 4 ans après. Et la première citation de l'article donne le ton. J'ai très vite regretté mes critiques envers mes prédécesseurs que je voyais comme des vieux somnolents dans l'hémicycle. Et
comme
oui,
quoi,
ce qui a le plus surpris ces néophytes, c'est la charge de travail. J'ai découvert qu'en fait, les débats jusqu'à 1h du matin n'avaient rien d'exceptionnel, reconnaît la désormais présidente de la Commission des lois, qui a appris, dit-elle, à faire des siestes n'importe où, n'importe quand, à commencer par sur la moquette de son bureau. Ce qui n'a pas empêché l'essentiel de ces néophytes de prendre goût à l'exercice. À 1 an de la fin de leur mandat, tous ou presque envisagent de se représenter en 2022, satisfaits de se sentir utiles parce qu'ils ont fait adopter tel ou tel amendement, aider à faire avancer tel ou tel texte. Alors, il y a du frustration, bien sûr. L'Assemblée, c'est une grosse machine. C'est pas parce qu'on a une bonne idée aujourd'hui qu'elle sera mise en œuvre le lendemain, souffle une élue du Val-d'Oise. Passer de l'anonymat à la députation a aussi bouleversé leur vie. Vous ne pouvez plus faire un pas au supermarché sans être arrêté par quelqu'un qui vient vous présenter but en blanc ses problèmes. C'est assez perturbant au début, dit un autre. La vie familiale aussi en prend un coup. Certaines et certains s'obligent du coup le week-end en circonscription à ne faire que des activités enfants compatibles. Mais le vrai sentiment d'échec raconté par ces élus LAREM, c'est surtout celui de ne pas avoir réussi à rompre avec les pratiques dites de l'ancien monde. Vous savez, les frondeurs, les députés qui claquent la porte du parti et surtout le raté de la promesse macronienne d'apaiser le pays, de réconcilier les Français avec leurs dirigeants. La crise des gilets jaunes leur a parfois valu des menaces, des déjections devant leurs porte. Être issu de la société civile n'a rien changé, résume l'un de ses députés. D'emblée, nous avons été considérés comme le système. 4 ans après, Confidence des députés novices La République en marche. Ce sont deux pages de témoignages à lire dans La Croix ce matin. Martin Lange, on termine avec vous.
Oui, et ce matin, je vous parle d'un drôle de conflit, la guerre du riz basmati avec deux belligérants, le Pakistan et l'Inde, deux pays en guerre depuis des décennies qui se sont encore affrontés au Cachemire il y a à peine 2 ans. Mmh. Alors pourquoi s'écharpe-t-il à propos du riz ? Eh bien parce que l'Inde a revendiqué l'appellation exclusive du riz basmati dans l'Union européenne. C'est comme s'il nous avait lancé une bombe nucléaire, réagit un producteur pakistanais interrogé par Al Jazeera. Une comparaison pas tout à fait innocente quand on sait que les deux ennemis font partie des rares pays à disposer de l'arme atomique.
L'exportation du riz est un enjeu vital pour ces deux pays.
Oui, l'Inde et le Pakistan sont les deux seuls pays à exporter du riz basmati, un riz cultivé au Punjab, une région qu'ils se partagent. Un riz surtout très prisé des Européens pour son parfum et sa forme tout en longueur. L'UE en consomme 300 000 tonnes chaque année. Mais progressivement, le Pakistan est en train de grignoter des parts de marché car l'Inde a du mal à respecter les normes sanitaires européennes. Et puis le Pakistan revendique un riz plus biologique, plus en phase avec les attentes du marché européen. Aujourd'hui, il fournit donc 2/3 de la demande européenne et ça ne plaît pas du tout à l'Inde qui veut s'approprier exclusivement l'IGP, c'est l'indication géographique protégée, c'est ce qui permet d'indiquer au supermarché riz basmati d'origine contrôlée. L'UE, elle, est assez embarrassée, elle ne veut surtout pas jeter de l'huile sur le feu entre les deux voisins. Elle joue donc la carte de la conciliation et espère trouver une solution à l'amiable. Pourquoi pas une candidature commune pour l'IGP, c'est aussi le souhait du Pakistan, avec peut-être un début de coopération entre deux des plus grands ennemis du XXe siècle. La guerre du riz basmati est déclarée, c'est à lire sur Slate.
Et c'est vrai qu'on avait parlé il y a quelques semaines de la réunification de Chypre, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le fromage
avec
de halloumi.
Ouais,
voilà, donc là on va peut-être avoir une réconciliation Inde-Pakistan avec le riz basmati. Finalement, la diplomatie de la nourriture, c'est quelque chose qui fonctionne. Merci beaucoup Martin, merci Omblin pour ce pressing. À tout à l'heure.
Théo Manval vous informe sur Europe 1.
À 5h23, direction Prades, à présent dans les Pyrénées-Orientales pour les doigts dans l'assiette, où l'on part rejoindre notre éleveur porcin Alex Thora. Bonjour Alex.
Bonjour.
Comment ça va ce matin ?
Écoutez, ma foi, très bien.
La réouverture des restaurants cette semaine, vous voulez nous en parler Alex Thora ce matin ? Elle vous a été bénéfique, à vous aussi les producteurs ? Je crois que c'est un petit peu la ruée chez vous.
Oui, effectivement, les restaurants se ruent vers les producteurs et c'est que très bon pour nous.
Parce qu'ils viennent vous commander évidemment des matières premières, on va dire, les restaurateurs avec lesquels vous travaillez. Qu'est-ce qu'ils viennent vous commander ? Qu'est-ce que vous fournissez en ce moment ?
Eh bien écoutez, il y a le travers de porc, le rips qui est mariné, sauce barbecue qui est revenu beaucoup sur les cartes.
Ouais.
Mais c'est surtout des restaurateurs qu'on ne voyait pas et qui sont venus chez les producteurs pour essayer de revenir vers le local.
Bien sûr, ça doit vous faire du bien, j'imagine, au moral d'abord de pouvoir retravailler un peu plus et puis à la trésorerie, Alex Thora.
Oui, c'est ça. On espère surtout qu'il ne se passera pas comme au premier confinement où on a eu énormément de commandes de nouveaux clients et qu'on a perdu par la suite. Donc là, on ne s'enflamme pas trop, on est content, mais on ne s'enflamme pas trop quand même.
Bon, il faudra effectivement voir si ça s'installe dans la durée. Est-ce que ça vous demande plus de travail ? Est-ce qu'il faut mettre les bouchées doubles à la fois sur la production, sur la transformation aussi que vous faites directement à l'exploitation ?
Oui, effectivement, il y a un petit peu plus de travail puisqu'il y a beaucoup plus de livraisons. Alors on se dit que c'est pour la bonne cause, bien entendu, c'est pour faire un petit peu plus de chiffres, mais forcément, l'amplitude horaire est plus importante.
Vous commencez à quelle heure là ? Vous êtes déjà au travail ?
Oui, là, je récupère mes carcasses à l'abattoir.
Ouais.
Mais on est en route depuis 3 heures ce matin.
Ah oui, donc ça fait un lever vraiment très tôt. C'est même un milieu de nuit. Effectivement, vous nous disiez les travers de porc pour les restaurateurs qui viennent s'approvisionner. Il y a aussi la saison des barbecues qui a commencé avec le couvre-feu qui s'étend le soir. Est-ce que vous avez plus de particuliers aussi qui viennent pour la vente directe ?
Eh bien là, oui, depuis cette semaine, les colis de grillade explosent et donc du coup, voilà, il faut fabriquer un petit peu plus et c'est ce qui aussi nous donne un peu plus de travail. Mais bon, on le sait, quand on arrive à la période estivale, on a toujours un petit peu plus de travail, mais cette année est quand même très très particulière.
En espérant que ça continue et que vous puissiez mettre un petit peu de côté pour affronter les mois d'automne et les mois d'hiver. Merci beaucoup Alex Thora. Éleveur porcin à Prades, près de Perpignan. À très bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette. Et bon courage alors pour ces journées denses qui s'annoncent.
C'est ça, merci beaucoup, au revoir.
Tu sais, la vie ne vaut rien si t'es
yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma façon. Chagrin. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma façon.
C'était Et même après, je t'aimerai sur Europe 1. Laurent Cabrol, la météo et un temps estival pour finir la semaine.
Ah oui, c'est du soleil et un beau soleil encore une fois, une chaleur qui devient maintenant assez suffocante pour certains d'entre nous. Hein. 34 degrés à Nîmes sous abri cet après-midi, c'est pas folichon non plus. Hein. 33 degrés à Perpignan, 32 à Carcassonne, 31 à Toulouse, s'il vous plaît, 29 à Marseille, 29 à Paris, oui. 28 à Annecy, à Bastia, Dijon, Rennes, Reims. Qu'y a-t-il encore? 27 degrés du côté de Charleville-Mézières, Verdun, Vannes, Beauvais et 26 à Nice, à Lille, même 25 à Caen. Allez, voilà pour les températures les moins chaudes. Mais c'est une journée d'été avec malheureusement encore des orages. Attention aux orages, cette fois ils vont se positionner, comme je le disais tout à l'heure, sur le sud-ouest de la France, jusqu'en Dordogne, jusqu'en Aveyron. Vous voyez, il est un grand, grand sud-ouest. Et ces orages éclateront aussi sur les Pyrénées et sur les Alpes du Sud. Bon, voilà, vous êtes prévenus, ces orages bien sûr éclateront en fin de journée. C'est là qu'ils sont les plus dangereux. Partout ailleurs. D'ailleurs, le soleil sera rayonnant dans une journée et pour une journée qui s'annonce bien agréable pour nous tous.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7, Théo Manval.
Et merci à vous de commencer la journée avec Europe 1. Marion Calais est arrivée pour un nouveau journal. Bonjour Marion.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Cette transformation impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure.
Un engagement vieux de 8 ans. La France va réduire sa présence militaire au Sahel. Moins de soldats, moins de bases, mais une coopération internationale renforcée pour lutter contre le terrorisme. Première nuit en prison pour le gifleur d'Emmanuel Macron. Il a été condamné hier à 4 mois de prison ferme. Et puis le coup d'envoi de l'Euro de foot ce soir et le casse-tête des supporters. En France, protocole sanitaire oblige, de nombreuses villes mettent déjà le holà au grand rassemblement.
Dans 10 minutes, il faut arrêter de penser séparément les politiques de lutte contre le réchauffement climatique d'un côté et de sauvegarde des espèces de l'autre. C'est le constat dressé par les experts de l'ONU dans un rapport publié hier. L'une des coordinatrices, la biologiste française Yun Shin, mon invitée juste après ce journal.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Ils sont un peu plus de 5000 aujourd'hui, mais à l'horizon 2023, il pourrait y avoir moitié moins de soldats français engagés au Sahel. Hier, Emmanuel Macron a esquissé la fin de l'opération Barkhane.
Aude Leroy, vous êtes la spécialiste des questions de défense pour Europe 1. Quels enseignements faut-il retenir de cette annonce ?
Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas d'abandon du Sahel par la France, mais bien une transformation de l'actuelle opération extérieure au profit d'une présence militaire française plus souple qui continuera, avec d'autres pays européens, à appuyer la mission de l'ONU ou les forces armées africaines. La décision a été prise en Conseil restreint de défense il y a un mois et demi. La France renonce au contrôle de zones qu'elle effectuait seule sur un territoire grand comme l'Europe. En revanche, elle va continuer de manière autonome la lutte antiterroriste en s'appuyant sur ses forces spéciales. C'est l'opération Sabre et elle accompagnera toujours la formation des soldats du G5 Sahel qui regroupe les 5 principaux pays de la région. Alors concrètement, ce qui devrait se passer, c'est une fermeture de certaines bases en commençant par le nord du Mali puis en redescendant vers le sud, peut-être dès cet été. La France pourrait diviser au moins par 2 ses effectifs au Sahel d'ici la fin 2022.
Une précision signée Aude Leroy pour Europe 1.
Et ils ont rendez-vous à Cardiff Bay dans le sud-ouest de l'Angleterre. Retrouvailles des dirigeants du G7 à partir d'aujourd'hui.
Pour discuter climat, vaccin, 1 milliard de doses promises pour les pays pauvres, mais un autre sujet pourrait s'inviter sur la table. L'interdiction faite aux ressortissants européens d'entrer aux États-Unis. Restriction mise en place par Donald Trump, ça s'appelle le travel ban. Une mesure extrêmement mal vécue par tous ceux qui ont été proches outre-Atlantique, hein, Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, c'est même vécu comme un supplice par certains Français qui n'ont pas pu voir leur famille depuis le début de la pandémie. Car si votre déplacement n'est pas considéré comme étant d'intérêt national par les Américains, inutile d'essayer d'embarquer dans un avion, vous serez refoulé. Elisa a 22 ans, son fiancé vit en Virginie. Leur relation se poursuit en visioconférence depuis près d'un an et demi.
C'est frustrant parce qu'on voit que les gens autour en France se retrouvent, peuvent sortir ensemble et nous toujours pas. Le nouveau gouvernement américain n'en a strictement rien à faire et invoque des raisons qui n'ont aucune logique parce que si vous venez du Mexique, de Turquie, vous pouvez directement aller aux États-Unis alors que pourtant ils ont plus de cas de coronavirus que nous. Et moi je sais toujours pas quand est-ce que je pourrai aller là-bas.
Elle réclame que les États-Unis appliquent le principe de réciprocité, qu'ils ouvrent à leur tour leurs frontières aux personnes vaccinées par exemple et elle espère que les dirigeants de l'Union vont tout faire pour convaincre Joe Biden.
Union et États-Unis main dans la main dès hier pour dénoncer la situation dans le Tigré éthiopien, une zone en proie à de violents combats depuis plusieurs mois. L'ambassadrice américaine à l'ONU évoque un cauchemar humanitaire et appelle la communauté internationale à agir contre la famine qui sévit.
Europe 1, il est 5h34. Il s'est présenté comme un gilet jaune et un patriote, le gifleur d'Emmanuel Macron, condamné hier à 18 mois de prison, dont 4 fermes.
Condamnation assortie d'une obligation de travail et de formation et d'une interdiction de port d'armes pendant 5 ans. Jean-Luc Bougeon a suivi l'audience pour Europe 1.
Non, il a été calme, mais il est resté déterminé durant l'audience. Il avait visiblement le souci d'effacer l'image de jeune écervelé violent pour apparaître comme un intellectuel qui réfléchit et qui a des convictions. Il est donc entré dans le détail de ses idées, son mépris pour Emmanuel Macron et sa politique, ses sympathies pour la droite et même l'extrême droite. Il a raconté aussi sa passion pour les chevaliers du Moyen-Âge et leur code d'honneur. À l'opposé de votre attitude lâche sur un chef de l'État qui vient pour vous saluer, lui faire marquer le président. Damien Tarel s'embarque alors dans des explications fumeuses, comme s'il récitait une leçon mal apprise. Plus tard, il remet en cause la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron et semble même exprimer des réserves sur la démocratie. Il admet enfin avoir consulté des sites interdits contestant l'existence des chambres à gaz. « Pour vérifier par moi-même, explique-t-il, car je n'aime pas la censure ni l'interdit. » Au final, au fil de toutes ces justifications, le jeune homme est apparu comme un complotiste un peu paumé, vivant du RSA, empêtré dans des constructions intellectuelles bancales et ne respectant aucune forme d'autorité ni d'institution.
Une précision signée Jean-Luc Bougeon pour Europe 1. Gérald Darmanin, une nouvelle fois désavoué. Fin mai, le Conseil constitutionnel avait retoqué l'article sur la provocation à l'identification des forces de l'ordre. Hier, c'est le Conseil d'État qui a annulé plusieurs dispositions du schéma du ministre de l'Intérieur en matière de maintien de l'ordre. La juridiction rejette notamment l'obligation faite aux journalistes de quitter les manifestations après dispersion.
Enfin, cette fois, on y est. Après le report de l'an dernier pour cause de pandémie, l'Euro de football sera lancé ce soir en Italie.
Italie-Turquie, ou plutôt Turquie-Italie, d'ailleurs. Pour ce premier match d'une compétition qui se déroulera à travers 11 pays, la France jouera mardi à Munich contre l'Allemagne. Et forcément, après le confinement et pour suivre les Bleus, l'envie est grande de se retrouver, de communier. Où Et comment ? C'est toute la question. Le gouvernement a dévoilé ces derniers jours un protocole sanitaire. Pour Europe 1, Marguerite Lefebvre.
À peine on avait publié qu'on avait déjà des appels de différents maires.
La ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, espère avoir convaincu les élus. Ils connaissent depuis une semaine le protocole sanitaire, strict mais pas insurmontable pour Jérémy Bréau, le maire de Bron, la ville de Karim Benzema.
La jauge est limitée à 900 personnes. Pour des questions de sécurité, il faut qu'elle s'inscrive sur Internet et qu'elle respecte les gestes barrières. Donc il y aura un service d'ordre, un service de protection. Il faut que les personnes soient assises. Ça ne va pas être simple, mais à nous de faire passer les consignes. Vous savez, offrir du bonheur aux gens, ça n'a pas de prix.
À Bron ou à Saint-Denis, on a décidé de se mobiliser dès le premier match des Bleus, ce qui n'est pas le cas de la plupart des grandes villes françaises. À Paris, Lyon, Nice ou encore Strasbourg, on attend le mois de juillet et la levée de certaines restrictions. La fin du couvre-feu, l'autorisation pour les supporters de rester debout, ce qui est tout de même plus simple. Dans toutes ces villes, on avisera donc dans 3 semaines. Pour d'autres, enfin, la décision est déjà prise. Les fan zones sont trop compliquées à organiser et trop risquées. Nîmes et Lens ont fait une croix dessus. À Rennes, la mairie va même plus loin. Les matchs ne pourront pas être diffusés sur les terrasses des bars afin d'éviter les attroupements.
Marguerite Lefebvre.
Dans le journal de Marion Calais. Merci Marion, il est 5h37. L'heure de retrouver Thierry Léger pour le Quintet.
C'est sur l'hippodrome de Compiègne que va se courir ce Quintet, un handicap qui réunira 16 partants sur la distance de 2000 mètres. Inkaman, le numéro 5, en pleine possession de ses moyens, comme le prouvent ses 2 dernières courses à Longchamp, me semble être un bon favori. Indifférent à l'état du terrain, il devrait pouvoir sans incident disputer la victoire. On lui opposera Brazing, le numéro 11, désormais régulier dans cette catégorie, grâce à une situation au poids plus favorable qu'elle ne l'était l'an dernier. Ensuite, méfiez-vous des numéros 2 King Platin, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, 16 Amour Nocturne, intermittente et dont la dernière sortie est trop médiocre pour être exacte, et 1 Falcon Run, certes chargé, mais qui a déjà gagné sur cet hippodrome de Compiègne. Enfin, les numéros 15 Gold Café, 6 Silver Crystal et 7 My Story compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 11, 2, 16, As, 15, 6 et 7.
C'est bien noté, merci Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur Europe1.fr. Europe 1. 5h38, c'est un nouveau rapport qui précise toujours plus les conséquences déjà à l'œuvre du réchauffement climatique sur la biodiversité. Les experts du GIEC et de l'IPBES, les deux groupements de chercheurs des Nations Unies sur le climat et les espèces, ont rendu de nouveaux travaux hier. Experts et expertes dont vous faites partie, Yun Shin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre première invitée ce matin, chercheuse à l'Institut pour la Recherche et le Développement. Vous êtes aussi l'une des coordinatrices de ce texte dans lequel on se plonge avec vous dans quelques secondes. À tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
Et notre première invitée, Yun Shin, chercheuse à l'Institut pour la Recherche et le Développement. Vous êtes l'une des coordinatrices, je le disais, de ce rapport publié hier par les deux groupements d'experts des Nations Unies sur le climat et sur la biodiversité. Experts qui fait ce constat, il faut traiter ensemble les crises de la biodiversité et du réchauffement climatique dans les politiques menées. Ça paraît évident de le dire, mais c'est un cercle vicieux. L'une de ces crises nourrit l'autre.
Oui, alors un cercle vicieux. En tout cas, il y a des interactions très fortes entre le changement climatique et la biodiversité. Le changement climatique, et ça je pense que maintenant vos auditeurs le savent, le changement climatique affecte négativement la biodiversité et l'ensemble des services écosystémiques. Et de son côté, la biodiversité peut jouer un rôle très important pour la régulation du climat. Donc rien qu'en disant ça, on voit que les deux processus doivent être abordés ensemble.
Et justement, le constat, je cite un passage du texte, c'est que les politiques mises en place jusqu'ici pour tenter d'enrayer la disparition des espèces ou la dégradation des océans d'un côté et la montée des températures de l'autre ont été pensées séparément, un petit peu en silo, et que ça c'est une erreur.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un ensemble de mesures qui sont faites pour lutter contre le changement climatique qui vont avoir des conséquences directes sur la biodiversité. Et de l'autre côté de la pièce, c'est que l'ensemble des mesures pour lutter contre la perte de biodiversité peuvent avoir un impact très bénéfique sur la régulation du climat. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je pense que les gens doivent réaliser, c'est que le changement climatique et la perte de biodiversité ont les mêmes grandes causes de changement, les mêmes grandes causes de dégradation. Ce sont la population démographique humaine, c'est les modes de production et de consommation, ce sont aussi nos systèmes de gouvernance, nos économies, le développement technologique également, mais aussi un ensemble de valeurs qu'on a par rapport à notre environnement. Donc il y a une énorme opportunité en abordant les deux problèmes de front, c'est qu'on peut mobiliser notre énergie, nos finances aussi, hein, nos choix individuels, on peut transformer nos systèmes en ayant un rapport bénéfice-coût qui est très important. On peut faire d'une pierre deux coups.
Il y a par exemple certaines politiques en faveur du climat aujourd'hui qui se révèlent destructrices pour la biodiversité. On peut donner des exemples ?
Alors, destructrice, je n'irai pas jusque-là. Cependant, il y a des grands exemples phares en fait de lutte contre le changement climatique. Il faut faire attention de où est-ce qu'on les implémente, comment on les implémente. Je vais vous donner des exemples qui sont liés par exemple aux bioénergies, pour faire du biocarburant par exemple. Le risque, c'est la monoculture. Le risque, c'est si on met beaucoup d'intrants, si on met beaucoup de pesticides et beaucoup de fertilisants. Le risque, c'est chacune de ces mesures-là qui sont phares, c'est lorsqu'on déploie ces mesures à trop grande échelle. Et qui dit trop grande échelle, ça risque aussi de rentrer en compétition avec d'autres formes de régulation de l'environnement. Mais il n'y a pas que les bioénergies, il n'y a pas que la reforestation qui ne serait pas forcément au bon endroit. Il y a aussi tous les plans de panneaux solaires, mais également de wind farms, excusez-moi, en français.
D'éoliennes, parce que là, c'est les minerais rares qui rentrent dans la production de ces panneaux solaires, de ces éoliennes.
Alors oui, il y a encore une fois une question d'intrants, mais là c'est pas le privilège de ces formes d'énergie renouvelable. Toute forme d'industrie qui utilise des minéraux et des métaux précieux, c'est la même problématique. Il n'y a pas une seule solution phare. Il y a un portefeuille de solutions qui doivent se compléter. Et tout comme les éoliennes et les panneaux solaires, si on les déploie à trop grande échelle, ça peut avoir des effets néfastes sur l'environnement. Mmh. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites pour réguler justement ces effets négatifs. Et on parle aussi beaucoup, pour par exemple les éoliennes, de l'effet sur l'environnement, sur les oiseaux migrateurs, etc. Mais là aussi, de ce côté-là, on progresse beaucoup justement sur, par exemple, la hauteur des pales des éoliennes, oui, sur leur emplacement, etc., etc.
Il faut donc faire attention à l'échelle et aux endroits où on fait les choses, où on met en place ces solutions. Dans ce rapport, il y a aussi beaucoup d'espoir et de solutions, justement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain, concrètement, pour avoir des mesures qui soient efficaces sur les deux tableaux, lutte contre le réchauffement et contre la disparition des espèces?
Alors, je peux vous parler justement de solutions qui mettent en œuvre des solutions basées sur la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut restaurer des écosystèmes naturels, on peut les gérer de manière plus soutenable, on peut protéger des pans de biodiversité. Pourquoi? Parce que il y a des écosystèmes qui sont très intéressants pour pouvoir capturer du carbone, pour pouvoir le séquestrer.
Par exemple
Les forêts, on sait qu'elles capturent du carbone, mais on oublie aussi souvent des écosystèmes marins. Par exemple, les forêts de mangroves sont extrêmement importantes pour séquestrer le carbone dans les sols, en deçà de toute la flore microbienne qui va dégrader la matière organique. Donc en deçà, on peut séquestrer le carbone pendant des centaines et des milliers d'années. Donc on voit bien que la destruction, par exemple, des mangroves pour des fermes crevettières ou pour d'autres usages peut être extrêmement néfaste, au contraire, à la régulation du climat.
Pour des choses plus près de chez nous, ceux ou celles qui ont un compost et qui nous écoutent, c'est des choses qu'on peut développer avec des circuits de collecte au niveau national, qu'on peut réemployer à beaucoup plus grande échelle que ce qu'on fait aujourd'hui.
Oui, alors tout ce qui est effectivement, ça rentre dans la logique de l'économie circulaire. Développer les composts, c'est excellent justement pour économiser tous les intrants de nitrogène inorganique, par exemple l'utilisation excessive de nutriments, de fertilisants pour les sols. On sait très bien que non seulement ça va polluer, ça va aussi augmenter les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il ne faut pas oublier que tout le système agricole de production de nourriture, tout ce système-là, depuis la ferme jusqu'à l'assiette, ça représente quelque chose comme de un tiers à un cinquième des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.
Merci beaucoup, Yun Shin, directrice de recherche à l'Institut de la Recherche et du Développement, membre du Comité d'experts des Nations Unies sur la biodiversité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous détailler ce rapport. Bonne journée.
Bonne journée.
Europe 1.
Il est 5h46, l'heure de mettre en lumière celles et ceux qui font bouger la France. Avec vous, Lénaïk Monnier, où est-ce que vous nous emmenez ce matin?
À Brest, où une association aide les malvoyants à naviguer seuls et complètement en totale autonomie.
Les Français ont des idées, on vous le montre dans une minute.
Europe 1. Théo Manval.
L'essentiel à retenir ce matin, Rome, Stadio Olimpico, 21h ce soir, coup d'envoi de l'Euro de football, match d'ouverture Italie-Turquie. Les Bleus entreront en scène mardi prochain contre l'Allemagne. Une semaine après la panne des numéros d'urgence, Orange s'explique aujourd'hui. L'opérateur doit rendre ses conclusions de son enquête interne sur l'incident qui a perturbé le service. L'ouverture du sommet du G7 ce vendredi au Royaume-Uni, les grandes semences vont notamment s'engager à distribuer aux pays pauvres 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid. Covid. Et puis moins de soldats, moins de bases au Sahel. Emmanuel Macron a annoncé hier soir la fin prochaine de l'opération Barkhane. L'Elysée assure toutefois qu'il restera sur place une présence significative pour lutter contre le terrorisme.
Écoutez Le Monde Changer avec Théo Manval sur Europe 1.
La France bouge, les Français ont des idées, on vous le montre tous les jours sur Europe 1 et nous allons donc dans le Finistère.
Oui, où l'association Orion a développé un outil pour permettre aux marins non-voyants de skipper en toute autonomie. C'est un milieu que l'association connaît bien puisqu'elle embarque depuis 2002 déjà des personnes déficientes visuelles pour dévirer au large de la Bretagne. Alors barrer et régler les voiles, ce n'est pas forcément handicapant avec des consignes, mais en revanche, impossible d'être seul à bord pour un mal voyant. À l'approche des côtes ou des digues, on ne peut en effet pas lire tout seul un sonar.
Et alors, comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors, l'application s'appelle Sarah Nav. Elle donne vocalement des informations comme le cap, la profondeur, la vitesse du vent pendant que les marins sont à la barre. Mathieu Simonet, qui l'a créé, est à la fois moniteur de voile et enseignant à l'IMT Atlantique, où il mène des travaux sur la cognition spatiale en l'absence de vision. Une fois que l'application est installée, eh bien, elle va permettre de définir une route de navigation avec des points d'étape à passer. En fait, ce qui plaît, c'est que ce n'est pas un pilote automatique. Les déficients visuels ont toutes les sensations qu'on recherche quand on navigue.
Et alors, comment est-ce qu'on se la procure, cette application ?
Alors, depuis quelques semaines à peine, elle est disponible gratuitement sur l'Apple Store en français et en anglais. Et le projet est parrainé par Damien Seguin. Vous vous souvenez peut-être de lui. Oui. C'était le tout premier skipper handicapé à boucler le Vendée Globe. Alors, lui était né sans main gauche. On se souvient, il avait un crochet de pirate à son moignon.
Capitaine Crochet.
Voilà, exactement. Mais c'était déjà porteur d'espoir de le voir terminer une grande course. Exploit qu'accomplira peut-être justement un jour un déficient visuel.
Merci beaucoup Lénaïk Monnier. Vous partagez avec nous vos bonnes idées, vos initiatives. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Et la France bouge aussi sur le web. Martin Lange, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux ?
Si je vous fais écouter ça, Théo, ça vous dit quelque chose ?
Ça va parler à beaucoup de monde, oui, effectivement, c'est Kaamelott.
Exactement, et bien figurez-vous qu'Alexandre Astier, le créateur de la série, a dévoilé hier sur Twitter les dernières affiches du film inspiré de cette série, un Kaamelott premier volet. Mm-hmm. Et on peut dire que le réalisateur a sorti l'artillerie lourde, pas moins de 20 affiches, une par personnage. Les fans ont donc découvert le casting complet, et ça fait plutôt rêver, hein, en plus des personnages traditionnels, Lancelot, Caradoc ou encore Perceval. Il y a à l'écran une ribambelle de stars, Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac, Alain Chabat ou encore le chanteur britannique Sting.
Sting dans Kaamelott,
exactement. Okay. De quoi, évidemment, à ravir les réseaux. Alexandre Astier nous fait saliver, estime Ludivine. Yogi voulait lui retweeter toutes les affiches, mais je vais plutôt réserver ma place, écrit-il. Il faut dire que l'attente a été longue. La sortie a été repoussée à plusieurs reprises, notamment à cause de la pandémie. C'est ce que souligne Garland. Ça fait des années qu'on attend. On a tout eu, mais cette fois, ça sera la bonne.
Une attente sur laquelle surfe, hein, évidemment, Alexandre Astier.
Oui, tout à fait. On peut même dire qu'il l'entretient un peu à l'image de ce que peut faire Netflix lorsque la plateforme annonce une nouvelle série. Le réalisateur a réuni tous les ingrédients d'une promotion réussi. Alors il y a eu le feuilleton avec ses affiches hein, publiées toutes les 20 minutes pour maintenir les fans en haleine. Il y a aussi les clins d'œil, notamment à la série Game of Thrones, avec ses portraits qui rappellent ceux de Daenerys ou de Jon Snow. Il y a aussi beaucoup d'humour avec ses citations hein, sur les affiches, comme celle d'Arthur. J'avais mis des années à avoir la paix, à plus voir vos tronches. Et puis du suspense avec une intrigue dont on ne sait rien. Le mois dernier, hein, le film s'était déjà offert un énorme buzz lorsque Thomas Pesquet avait réclamé une avant-première directement depuis l'ISS. Alors pour le commun des mortels, hein, ceux qui ne sont pas astronautes, il faudra attendre le 21 juillet.
C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.
Merci beaucoup Martin Lange pour ces réseaux sociaux. À tout à l'heure. À 14h, votre rendez-vous comme tous les jours avec On de la Traconte. Aujourd'hui, meurtre au paradis. En 2002, en Nouvelle-Calédonie, Mika Kusama, une jeune touriste japonaise, est sauvagement assassinée sur un rocher de la baie paradisiaque de Kanumera. Le récit dans On de la Traconte à 14h, c'est à télécharger dès maintenant sur Europe1.fr.
Europe 1.
Dans un instant, notre planète, on file retrouver Fanny Agostini. À tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
À 5h53 sur Europe 1, il est l'heure de s'intéresser à notre planète. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez, Fanny, de l'apparition récente de recycleries sportives qui se démènent pour appliquer le zéro déchet dans le sport.
Oui, la première du nom est née en 2015 dans l'Essonne et trois autres centres sont apparus depuis. Il s'agit de recycleries sportives qui essaient d'éviter qu'un maximum d'articles de sport et de loisirs soient jetés ou recyclés. Elles fonctionnent sur la base du don, en servant de lieu de dépôt ou en organisant ponctuellement des tournées de collecte. Une fois collectées, les centres trient les articles en cherchant avant tout à directement les réemployer, les réparer si c'est possible et les démanteler pour utiliser les matériaux sous une autre forme ou encore les recycler. recycler lorsque rien d'autre n'est envisageable. Une approche zéro déchet qui passe aussi par la sensibilisation de tous les partenaires avec qui les recycleries entrent en contact.
Et cette récupération permet de faire de l'économie circulaire avec la masse de déchets sportifs qui sont produits chaque année.
Oui, l'ADEME mesurait 104 tonnes de déchets d'articles sportifs en 2018. Un chiffre conséquent étant donné les tissus et plastiques en tout genre utilisés pour faire ces équipements. Les recycleries sportives ont réussi à en récupérer 80 tonnes 2 ans plus tard, leur permettant de remettre en circulation des équipements touchant à 40 sports. Mais tous ces déchets leur permettent aussi de revendre des équipements à bas prix et d'animer des ateliers de réparation en sollicitant de petites contributions de leurs adhérents pour supporter les coûts de fonctionnement. Une manière de valoriser des objets déchus pour rendre le sport accessible à un cercle élargi de personnes.
Et alors ce modèle de recyclerie sportive, Fanny, est-ce que c'est viable ?
Il n'y a qu'à voir l'expansion des recycleries sportives depuis leur création en 2015. Des sites ont poussé à Massy, Paris, Mérignac et Marseille, et 5 autres sont prévus à l'ouverture à Lyon, Grenoble, Chambéry et Lille, ainsi que dans le Tarn. De quoi déployer un réseau conséquent en anticipation du 1er janvier 2022. C'est la date à partir de laquelle une filière pollueur-payeur sera créée pour les articles de sport et des loisirs. Ce type de filière prévoit que les producteurs incluent le processus de fin de vie des produits dans leurs coûts. La loi prévoit la création de centres de massification des déchets où les organismes donnant une seconde vie aux produits pourront s'approvisionner. L'occasion pour le modèle d'économie circulaire solidaire des recycleries d'être systématisé.
Les recycleries sportives, notre découverte du jour grâce à vous, Fanny Agostini. Merci Fanny, à demain.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez au réveil, il est presque 6h en ce vendredi 11 juin.
Et il l'a mis au même endroit.
Oh, c'est terrible d'Arco Nada. Et but de Michel Platini qui l'a mis au même endroit, qui l'a mis dans le gardien.
Les Bleus de Michel Platini avaient ouvert la voie en 1984. Ceux de 2021 vont tenter de remporter eux aussi l'Euro de football qui débute aujourd'hui. Match d'ouverture en Italie. Ce soir, l'équipe de France entre en piste mardi prochain face à l'Allemagne avec le statut de favori. Alors, danger ou pas ? On pose la question à Alain Giresse qui fut l'un des champions de 84, mon invité à 6h40. À 6h20, l'inattendu fut l'auteur d'un hymne des Bleus, mais pour la Coupe du Monde 78 cette fois-ci. Par amitié pour le sélectionneur, lui qui était plus habitué à chanter pour les Verts, et à animer Salut les copains sur Europe 1. Alors qui est-ce ? On lève le mystère sur Europe 1 dans 20 minutes. Jusqu'à 7h, une revue de presse internationale spéciale Euro aujourd'hui, qui nous mènera d'Allemagne, qui prépare donc l'entrée en matière contre les Bleus. En Espagne, où l'équipe, la sélection est décimée par le Covid, la presse est préoccupée. On commencera par l'Italie, évidemment, où Rome accueille ce soir le coup d'envoi de la compétition. Notre dose de musique aussi ce matin avec la partition d'Amblin Roche. Groupe écossais dont les succès font partie de la bande originale de nos années 80. Ils sont souvent comparés à U2, les Simple Minds, dans la partition d'Amblin. Rendez-vous à 6h25. Mais avant ça, la météo de cette fin de semaine, Laurent Cabrol.
Eh ben, aujourd'hui, ça change sans changer. Bon, alors je m'explique. Ce qui ne change pas, ce sont les brouillards. Ils sont là, Saint-Brieuc, Dinard, il y en a au Havre, à Digne, à Abbeville, Le Touquet, Saint-Quentin, Beauvais, Lannion. Je les découvre avec vous. Ils viennent d'être informés sur nos cartes. Ils viennent d'être indiqués sur nos cartes. Ce qui ne change pas non plus, c'est la température. Nous avons pratiquement les mêmes températures qu'hier. Hein. 28 à Paris, à quelque chose près, 31 à Lyon. Ce sera vraiment comme hier, 34 degrés à Nîmes. Et puis, ce qui change un tout petit peu, c'est la position des orages. Les orages étaient dans le sud-est. Les voici maintenant dans le sud-ouest. Donc, un temps orageux sur le massif Pyrénéen d'abord, puis sur les plaines du Midi-Pyrénées, les plaines d'Aquitaine, le Languedoc, le Roussillon, la vallée de la Garonne, et le temps sera également orageux en fin de journée sur la Dordogne et peut-être sur l'Aveyron. Et puis, ce qui change, disons un tout petit peu, c'est la rapidité avec laquelle les brouillards vont se disperser près de la Manche, dissipation de la majorité des brouillards assez rapide. Voilà pour cette journée d'aujourd'hui. Pour demain et après-demain, ce sont des journées beaucoup plus limpides, c'est-à-dire que nous allons avoir un temps sec, sec, un temps chaud, beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, avec des températures qui seront 1 à 2 degrés supplémentaires, 2 degrés supplémentaires, mais qui en même temps vont permettre au ciel de se dégager totalement. C'est-à-dire que le ciel sera bleu partout, alors qu'aujourd'hui, nous aurons toujours, comme ces jours derniers, nous aurons quelques passages nuageux qui sont des nuages de chaleur. Donc, vous l'avez compris, nous allons vers l'apogée. Lundi, mardi, ce sera encore un apogée. Oui, une apogée.
Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, apogée, on va dire une apogée parce que c'est
ouais,
E.
Oui, une apogée, bon.
C'est bien, on fait du français en même temps que la météo avec Laurent Cabrol. Ouais.
Oui, c'est-à-dire que je réfléchis au fur et à mesure que je parle. Ça, c'est du vrai temps. Hein. Lundi, mardi, il fera très chaud. Et puis mercredi, là, ça bascule vers les orages.
Apogée, mot masculin, me glisse notre réalisateur Fabrice Lafitte en régie. Merci Fabrice et merci à vous, Laurent Cabrol. On vous retrouve dans une demi-heure.
Très bien.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Merci à vous de nous rejoindre sur Europe 1. On se réveille ensemble et on écoute le monde changer avec Sophie Echen pour un nouveau journal. Bonjour Sophie.
Bonjour Théo, bonjour à tous.